petit résumé de ce qu'on a vu dimanche passé. S'il y en a qui n'étaient pas là, ça vous aidera. Pour ceux qui étaient là, ça vous remémorera un petit peu ce qu'on a dit. Donc, je fais un petit résumé. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc, en premier, on avait vu que Dieu est le Dieu de l'impossible, mais il faut que nous, on fasse notre part. On avait parlé de ça, hein, pour que Dieu intervienne, que ce soit à l'école, au travail, pour avoir des promotions ou même en amitié. Dieu fait des tas de choses, mais nous, on a notre part à faire. Ben, c'est très bien. Ce matin, on a parlé du sourire et du bonjour. Ça en fait partie, hein, on a notre part. C'est vrai que souvent, il y a des gens, ils veulent des amis, ils veulent des contacts, mais ils sont pas prêts à donner un sourire, un mot gentil, un mot d'encouragement. Ils sont toujours négatifs. Et évidemment, ça, on a notre part à faire. Si on veut des amis, c'est pareil. Il y a une implication. Ensuite, on a vu quand Dieu exauce, ne pas oublier de remercier, reconnaître sa grâce. La définition de la grâce, hein, un cadeau non mérité. C'est un enfant qui avait dit ça, j'avais bien aimé. Un cadeau non mérité. Donc, ne pas oublier de remercier Dieu pour ses grâces. Anne tient sa promesse, on a vu la maman de Samuel, hein, tient sa promesse. Et on avait réfléchi aussi, et nous, est-ce qu'on tient nos promesses par rapport à Dieu particulièrement? On a vu que Anne avait l'accord de son mari, qui était un homme extrêmement consacré. Quand on voit qu'il laisse aller l'enfant de la femme qu'il aimait, rappelez-vous la réaction de Jacob quand il a dû laisser aller partir Benjamin. C'était ouf, il a pleuré, crié, etc. Et c'est donc vraiment, c'est un homme extrêmement consacré à Dieu. Contrairement, et là on va le voir beaucoup aujourd'hui, le contraste avec Élie qui honore ses fils plus que Dieu. Lui, il a honoré Dieu plus que son fils. On a vu aussi que Samuel devait avoir 4-5 ans quand il est parti, et on avait précisé que c'était une éducation quand même différente. Les enfants n'étaient pas élevés dans du coton. Très vite, ils étaient responsabilisés. Et on avait dit aussi que Dieu avait un plan pour lui. Ça explique, hein, qu'il ait pu tenir le choc. Et Dieu donne ce qu'il ordonne. Et il a donné certainement à cet enfant la capacité de supporter la séparation. Pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés, hein, parce que sinon ça aurait été, je pense, quand même un peu difficile malgré l'époque et la culture. On en avait déduit aussi que nos enfants ne nous appartiennent pas, ils sont pas là pour notre plaisir, et on avait dit aussi que dans notre société aujourd'hui, c'est beaucoup ça, hein. On se réveille à 40 ans, 45 ans, oh mais mince, ce serait tellement bien d'avoir un enfant. Bon, en fait, on pense surtout à soi, et à l'époque, et puis bon, aux yeux de Dieu, hein, les enfants sont pas là pour notre plaisir ni notre fierté. On peut les rendre très malheureux si on en fait des objets de fierté, ni non plus pour compenser ce qu'on n'a pas pu faire dans la vie. Hein, combien de gens ont dû faire des carrières et ont souffert énormément parce qu'ils étaient là pour compenser une carrière que les parents n'avaient pas pu faire. Donc, il faut faire attention à tout ça. On a vu que les enfants ne nous appartiennent pas. Mais notre but, c'est de les préparer à entrer dans leur destinée. Les préparer à entrer dans ce que Dieu veut pour eux. Et il se peut que parfois ça ne corresponde pas à ce que nous on veut. C'est pas gênant. Le but, c'est de les préparer à ce que Dieu veut pour eux. Alors, on avait parlé aussi de la transmission. On transmet aux enfants pour qu'ils soient un homme ou une femme de Dieu capable de faire face à la vie. Alors parfois, bon, il y a des parents qui peuvent énormément gâter un enfant, par exemple. Le résultat, c'est que cet enfant va souffrir toute sa vie. Parce qu'il va toujours chercher à retrouver ce milieu tout cotonneux où tout était fait pour lui, tout était mâché. Et donc, une énorme souffrance pour le reste de sa vie, parce que vous savez très bien que la vie, c'est pas ça. Alors, il s'agit pas de leur rendre la vie impossible, mais de faire attention. On est en train de préparer un homme ou une femme capable de faire face à la vie. Il faut jamais oublier ça. Capable d'accomplir l'appel de Dieu aussi sur sa vie. Donc, c'est une drôle de responsabilité, en fait. Hein. Capable d'être un bon conjoint. Hein. Je vous avais parlé de ma belle-mère qui vivait toujours dans cette optique de tout faire pour que ses enfants soient des bons conjoints. Elle a réussi pour tous, sauf pour celui-là. Oh, non, c'est pas vrai. C'est une blague. Non, elle a réussi. Elle a réussi. Ils ont été de bons conjoints. Et je crois que c'était sa vision. C'était religieux. C'était peut-être un petit peu... bon, mais... elle a réussi et c'était une très bonne façon de voir la vie. Parce que pourquoi, on a dit hein, la dernière fois, pourquoi il y a tant de divorces aussi? C'est pas toujours la cause. Mais ça en fait partie. Les enfants ont été élevés, je veux ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ils arrivent, ils se marient et pan, c'est la catastrophe. Parce que là, on peut plus avoir ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Faut tenir compte de l'autre, qui lui aussi veut ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est forcément ça, ça éclate. C'est normal. Donc, être un bon conjoint, c'est aussi ce qu'on doit avoir en tête quand on élève les enfants. Il est jamais trop tard. Ensuite, qu'il soit capable d'avoir une bonne relation personnelle avec Jésus. On en avait parlé, hein. Qu'il sache que Jésus est son refuge, sa forteresse. Et quand on élève un enfant, c'est aussi le but de pas le faire vivre toujours sur notre carte de crédit spirituelle. L'expression n'est pas de moi, mais je l'aime beaucoup. C'est facile de vivre sur la carte de crédit de quelqu'un d'autre, mais il faut qu'un jour il ait la sienne. Il ait sa carte de crédit spirituelle, sa relation personnelle avec Dieu. Et que ce soit pas toujours maman qui prie pour moi ou papa, mais que moi, petit, j'apprenne à prier, tout petit, tout jeune. On transmet pour qu'il se construise et qu'il arrive à aider les autres à se construire. Donc, il ne pense pas qu'à lui. Faut que lui se construise. Mais très jeune aussi, faut qu'il comprenne qu'il peut être un très bon apport pour aider les autres à se construire. C'est-à-dire, en fait, tout notre travail va être apprendre à l'enfant à se décentrer de soi-même. Et ça, c'est très cruel. Quand ils naissent, ils sont complètement centrés sur eux. Et en fait, on va passer notre vie d'éducation jusqu'à 18-20 ans pour leur apprendre à se décentrer d'eux-mêmes. Ah, et ça, c'est beaucoup le rôle des mamans, mais c'est aussi beaucoup le rôle des papas, d'apprendre à l'enfant à s'ouvrir à l'extérieur et à être décentré de soi. Et c'est pas facile, hein, surtout au moment de l'adolescence, c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on les construit pour qu'ils puissent faire face à la vie, qu'ils soient pas désarmés devant les difficultés de la vie. Ensuite, on avait vu que Dieu renverse les situations. Daniel, Esther, et c'est ce que dans le cantique d'Anne, vous vous souvenez, on a vu que Dieu prend plaisir à renverser les situations. Et ça, on le voit dans nos vies aussi, on le voit très souvent, des gens qui ont prévu de faire du mal, de vous faire du tort, et qui font tout pour ça, et puis un jour, bien, c'est eux qui sont en difficulté, et qui sont obligés de partir. Et on aurait beaucoup de témoignages, si on vous laissait tous donner des témoignages, je crois, de situations où Dieu a renversé les situations. Et ça, c'est formidable et c'est un des thèmes du livre du début du livre de Samuel. On avait aussi parlé de encourager les enfants à servir Dieu, mais qu'il fallait être attentif, que ça devienne pas une obligation. Alors c'est délicat hein, parce que si je laisse l'enfant choisir, le poids du monde va être tel que c'est réglé d'avance. Hein. Le choix sera vite fait. Ça sera pas le bon. Maintenant, si je mets une obligation très lourde, l'enfant éventuellement va grandir et servir Dieu et servir les autres, mais par obligation, et ça va engendrer une souffrance et une révolte. Alors que encourager les enfants dans le bonheur de servir, leur montrer que c'est gratifiant de servir, c'est gratifiant de servir Dieu, peut-être pas sur le coup et encore, c'est gratifiant de savoir qu'on fait les choses bien et qu'on aide les autres par amour. Et non pas par obligation. Et ça, c'est important, parce que j'ai vu beaucoup, quand j'étais jeune, de parents chrétiens qui ont perdu leurs enfants, entre guillemets, qui ont laissé leurs enfants entrer dans des révoltes épouvantables, parce que c'était une obligation. J'en ai même connu un qui donnait des coups de bâton pour faire lire la Bible à son fils. C'est pas un mythe. Ma mère était scandalisée, je me souviens. Elle avait sermonné ce monsieur. parce que c'est pas comme ça. Hein. C'est vraiment... apprendre à servir Dieu par amour et encourager les enfants à servir Dieu par amour. Parce que de l'autre côté, vous avez aussi les parents qui laissent faire « Oh, mais il fera son choix, c'est rien, moi je veux pas intervenir. » C'est pas mieux. Hein. Mais c'est vraiment encourager les enfants à servir Dieu par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Justement, je viens de lire dans des magazines, comme disait Bruno tout à l'heure, c'est incroyable comment les gens du monde, les journalistes, commencent à dire des choses intelligentes psychologiquement qui tiennent la route et même spirituellement et qui disent que les gens qui vivent longtemps, qui vivent bien, qui vivent heureux malgré les difficultés, c'est ceux qui pensent aux autres. Oh, quelle découverte! La Bible le dit depuis longtemps. Hein? Et je crois que c'est ça que je veux dire, hein? C'est servir Dieu, servir les autres par amour, pas par obligation. C'est fantastique. C'est extrêmement gratifiant. C'est parfois difficile, mais c'est extrêmement gratifiant. Enfin, on avait terminé en disant que le cantique d'Anne montrait que Dieu était souverain, qu'il était à la fois, et c'est ça qui est extraordinaire, créateur du cosmos, de l'univers, etc., mais en même temps, et de l'histoire des hommes, maître de l'histoire des hommes, mais en même temps, il pense au plus petit, à l'opprimé, et à celui qui est méprisé. Comment est-ce qu'il fait ? Ça nous dépasse, comme on disait tout à l'heure, ça nous dépasse. Mais il est à la fois très grand, très puissant, et à l'écoute du plus petit. Et ça, c'est formidable. Je crois qu'on avait terminé un petit peu là-dessus. Dieu est grand. Alors, maintenant, on est arrivé à quelque chose d'assez étrange dans la Bible, bien que, bon, beaucoup de commentateurs ont remarqué que c'est un schéma assez courant, un schéma littéraire. Alors là, pour ceux qui font un peu de littérature, là, les jeunes, là, première, terminale, ça peut vous intéresser. Beaucoup de textes de la Bible sont construits sur des oppositions. Et en fait, ce texte-là, je le connaissais presque par cœur, parce que vous savez, depuis l'école du dimanche, je l'ai entendu je sais pas combien de fois, j'ai encore les images du flanellographe dans les yeux. Et je m'étais pas aperçue qu'en fait, le texte est extrêmement construit. Et alors, soit c'est pure inspiration du Saint-Esprit, soit quand ça a été rédigé en étant conscient qu'on faisait une opposition, peu importe, dans tous les cas, le Saint-Esprit a inspiré. Et on remarque que le chapitre 2, à partir du verset 12, donc juste après le cantique d'Anne, il va y avoir tout le temps une opposition. On va marquer un contraste, mais avec des procédés littéraires tout simples. On va faire une opposition dans le temps. Ça va marquer à la fois la progression dans le temps et une opposition entre deux personnages, Samuel et les fils d'Élie. Et vous allez voir, c'est même assez amusant quand on regarde de près. C'est visiblement intentionnel parce que c'est très très bien réglé. Procédé littéraire qui marche très très bien et qu'effectivement Dieu utilise souvent dans la Bible. Le Saint-Esprit l'utilise souvent parce que ça nous aide à mieux comprendre les choses. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. On prend au verset 11, je crois, chapitre 2, verset 11. Non, verset 12. Bien non, 11 déjà. Quant au garçon, donc il s'agit de Samuel, il officiait pour le Seigneur auprès d'Élie le prêtre. Petite phrase courte. Le garçon, Samuel, officiait auprès d'Élie le prêtre. Il officiait pour le Seigneur. C'était pas mal, ça. Pour le Seigneur, auprès d'Élie. Hein, quelquefois on dit, ouais, moi je veux bien servir le Seigneur, mais les autres, ouh! Non. Pour le Seigneur, auprès d'Élie, vertical, horizontal. Bon, ok. Ça dit pas grand chose, mais voilà. Et puis, d'un seul coup, on passe, verset 12, les fils d'Élie. Et vous allez voir, tout le chapitre est construit comme ça. Les fils d'Élie étaient des hommes sans morale, verset 12. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Voici comment ces prêtres agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où on le faisait cuire la viande. Il n'était pas fou, hein. Une fourchette à trois dents à la main. C'est très précis, hein. Il piquait dans la cuve, dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot, donc suivant la taille, hein, de l'offrande. Tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous les gens d'Israël qui venaient là à Silo. Donc ceux qui venaient servir Dieu, adorer, offrir des sacrifices. Avant même qu'on fasse fumer la graisse, ce qui était obligatoire, hein, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. » Parce que, c'est simple, il voulait visiblement la rôtir, et pour la rôtir, c'était mieux que la graisse soit restée dessus. Or, la loi demandait à ce que la graisse soit toujours brûlée en offrande à Dieu. Et si l'homme lui disait, « Mais qu'on fasse d'abord fumer la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires. » Le serviteur répondait, « Non, donne-le, tout de suite, sinon je le prends de force. » Et maintenant, conclusion, le péché de ces jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ils bafouaient l'offrande du Seigneur. Ah, un gros pavé sur les fils d'Élie. Puis une toute petite phrase sur Samuel, et ça va pas manquer, sur quoi on débouche juste après. Samuel officiait devant le Seigneur, c'était un garçon qui portait un éphod de lin comme un pagne. Ah, petite progression, il portait un éphod, c'est-à-dire le vêtement sacerdotal, le vêtement des prêtres. Il avait déjà un petit éphod, c'est-à-dire à sa taille bien sûr, mais qui annonçait qu'il allait être prêtre. Donc on avance un tout petit peu. Les fils d'Élie étaient des gens sans morale. Élie était quand même souverain sacrificateur. Comment ça se fait que ses fils était sans morale. Et en fait, l'hébreu dit « fils de Bélial », des vauriens, Bélial étant un dieu cananéen. Il ne connaissait pas le Seigneur. Wow, comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il avait transmis, Élie? Ils ne connaissaient pas le Seigneur? Ça veut dire qu'ils étaient toujours sur la carte de crédit de leur père? C'était des hommes, peut-être ils avaient 30, 35, 40 ans. Comment ça se fait? Et la Bible dit, leur péché était très grand, ils bafouaient l'offrande du Seigneur. Alors à tout hasard, Bélial, j'avais regardé dans le dictionnaire biblique, était synonyme en tant que dieu d'indignité, de méchanceté, d'impiété, de destruction et de perversité. Fils de Bélial. Pour les fils du sacrificateur. Il y a eu un problème là au niveau de la transmission. Hein. Je ne veux pas être méchante avec Élie, mais il y a eu quelque chose. Hein. Et puis, on va continuer. Là, on va parler un petit peu plus de Samuel, verset 18. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour lui offrir le sacrifice annuel. Donc les parents continuent à adorer Dieu. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, la honte a été enlevée, mais ils continuaient à venir adorer Dieu. Et ça c'est important. Combien de fois moi j'ai vu, surtout dans mon église, il y avait beaucoup de guérisons, et une fois les gens guéris, ils reprenaient leur vie, et quelquefois encore plus mal qu'avant. Et ça c'est bizarre. Et là, eux, ils continuent à venir adorer Dieu. C'était quand même du boulot, hein. Fallait emmener les ânes, tout le matériel de camping, et c'était pas trigano, hein. Il fallait se charrier, les peaux de bêtes, etc. Bon, il y avait tout un travail quand on se déplaçait. Hein. Et tous les ans, ils allaient à Silo. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que le Seigneur te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qui a été demandé pour le Seigneur. Ils s'en retournèrent chez eux, le Seigneur intervint en faveur d'Anne, elle fut enceinte, elle mit au monde 3 fils et 2 filles. Voilà, une belle famille, elle a été bénie par le Seigneur. Entre parenthèses, la prière d'Élie a été exaucée. Ça ne veut pas dire que le Seigneur était content de lui. Mais sa prière a été exaucée parce qu'il était sacrificateur et il a prié en faveur de quelqu'un du peuple et Dieu a exaucé. Et gardons-nous toujours de conclure que quand la prière de quelqu'un ou la prophétie de quelqu'un se réalise, de penser, bah, du coup, la personne, elle est très bien. Elle est très proche de Dieu, elle est très bien. C'est malheureusement pas toujours vrai. C'est Dieu qui exauce. La personne n'est qu'un tuyau. Et si je prends un tuyau, je peux faire passer de l'acide dedans, ou je peux faire passer de l'eau, ou je peux faire passer de l'huile. Le tuyau, c'est le tuyau. On est appelé à être des tuyaux, hein, des vaisseaux qui transmettent la bénédiction, mais on n'est pas responsable de ce qui passe dedans. Quand c'est la bénédiction, c'est Dieu qui l'accorde, c'est pas nous. Quand c'est une prophétie qui se réalise, c'est la grâce de Dieu, c'est pas nous. Et de la même façon, évitons d'adorer entre guillemets les gens. Oh, c'est quelqu'un, c'est un prophète extraordinaire, etc. Il m'a prophétisé ça, ça s'est réalisé. Bon, c'est un homme de Dieu qui a fait son boulot. Point. Ça ne veut pas dire que sa vie est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout comme lui. Gardons-nous bien de faire des amalgames comme ça. Élie a été exaucé, sa prophétie s'est réalisée, sa prière a été exaucée, et pourtant Dieu était furieux après lui. C'est important de le noter. Et voilà, le jeune Samuel grandissait auprès du Seigneur. Alors voyez, ça fait 3 fois là qu'on a ça. Hein. Quant au garçon, il officiait pour le Seigneur. Samuel officiait devant le Seigneur, c'est un garçon qui portait un éphod de lin. Le jeune Samuel grandissait auprès du Seigneur régulièrement. On le voit grandir tout doucement. Et c'est comme si Dieu portait une attention particulière à la croissance de ce garçon. Et là, je pensais ce matin, je l'avais pas mis dans mes notes, mais ça m'est revenu ce matin, à quel point Dieu est attentif à vous en tant qu'enfant. Là, je parle à tous mes grands, là, enfants, adolescents. Comment il a l'œil sur vous, vous imaginez pas. Il a des plans pour votre vie, il a des choses en réserve, et souvent, malheureusement, nous les adultes, on oublie ça. Oh, c'est qu'un enfant, c'est qu'un ado, blabla. Vous êtes hyper précieux, vous êtes vraiment sous le regard de Dieu, il a un plan pour votre vie, il a des choses en réserve pour vous, hyper importantes. Les adultes, ils le voient pas toujours, ils ont tort, parce que Dieu est extrêmement attentif. Et la façon dont il est attentif à Samuel, dans ce texte, on le voit, hein, on le voit grandir, porter les fautes de l'un, servir Élie d'abord, et puis ensuite, il grandissait auprès du Seigneur, ça veut dire que sa foi grandissait. Donc Dieu a un regard très particulier sur les enfants. Et d'ailleurs, C'est curieux parce que dans la culture, la plupart des cultures humaines se basent sur la valeur de l'âge. Même si c'est Corneille qui a dit la valeur n'attend pas le nombre des années. On connaît tout ça par cœur. Mais il avait raison. Mais globalement, on a tendance à respecter l'âge dans toutes les cultures. Et la Bible va souvent dans l'autre sens. Daniel, Esther, Samuel, les petits garçons avec le pain et les poissons. Si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Encore une fois, le contraste avec la parole de Dieu dit, bon, l'âge, c'est pas forcément le plus important. C'est qui on est devant Dieu. Hein, donc, c'est important de le remarquer. La Bible met souvent l'accent sur les jeunes, sur les enfants. Donc, on a lu 22 à 25. Non, pas encore. Là, on va continuer la suite. Toujours le parallèle. On vient de dire, le jeune Samuel grandissait. Pouf! Juste une phrase. Élie était très âgé. Ah, on revient à Élie. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ben, il serait temps. Tout le monde était au courant. Combien de fois, en tant que parent, plein de gens sont au courant, quelque chose va pas chez les enfants. Et puis, souvent, les parents ne le savent pas. Je me souviens de la difficulté à laquelle je me suis trouvée quand Olivier m'avait expliqué qu'un de ses copains commençait à se droguer. Et sa maman était venue le chercher chez moi à la suite d'un... Vous avez passé l'après-midi ensemble. Et j'étais là en me disant, je peux pas trahir la confidence qui m'a été faite. Comment je peux dire à cette maman qu'elle est en train... Elle va vivre un cauchemar dans les jours qui suivent, dans les semaines qui viennent. J'ai essayé par tous les moyens de dire sans dire tout en disant. C'était pas facile. Je voulais pas trahir. Mais je me disais, si c'était mon fils, j'aimerais bien qu'on me le dise. C'est pas simple. C'est pas simple. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je crois pas que j'étais très efficace ce jour-là. Il apprit aussi, tiens, qu'il couchait avec les femmes qui accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre. Ça faisait penser à la prostitution sacrée chez les Cananéens. C'était courant. C'était même considéré comme faisant partie du culte chez les païens. Comment ils osaient? C'était vraiment pas ce que Dieu avait donné dans sa loi. Il leur dit, et alors là, notre pauvre Élie, pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tout le peuple, autrement dit, tout le monde était bien au courant, vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple du Seigneur à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu arbitrera pour lui. Mais si un homme pêche contre le Seigneur, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car le Seigneur voulait les faire mourir. Ah, on a deux choses là. Vous avez vu qu'il n'était pas très contraignant, le petit papa, là. Il était visiblement âgé, puisqu'il, la Bible dit, était très âgé, donc il avait dû avoir ses enfants un peu tard. Et il s'était pas trop impliqué, apparemment. Hein. Il avait laissé les choses se faire. Et il les reprend. Une fois que tout le monde est au courant, donc ça faisait apparemment des années, finalement il se décide, peut-être en voyant grandir Samuel qui était obéissant au Seigneur, il s'est dit, peut-être que je m'occupe de mes fils. Celui-là, il pousse bien, mais alors les miens poussent de travers. Peut-être. En tout cas, il se décide à aller leur parler. Mais il n'est pas très musclé. Hein. Ça fait mal au cœur. Non, mes fils, ce que vous faites n'est pas bien. C'est un souci, hein. Je veux pas être méchante avec Élie, mais il y a beaucoup de pasteurs qui le sont ou de commentateurs qui disent que il était pas du tout dans l'éducation de ses enfants. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, il les a laissés partir de travers. Vous savez, comme les arbres. Dans les régions où il y a du vent, je sais pas si vous avez vu, peut-être dans le sud ou bien au bord de la mer. Vous avez vu comment les arbres, ils poussent à l'horizontale. À cause du vent. Et si on veut qu'un arbre pousse droit, il faut, dès le départ, mettre un tuteur. Et bien l'accrocher pour qu'il commence à pousser droit. Après, il pourra résister au vent. Mais s'il pousse naturellement, il va pousser à l'horizontale. Hein. On voit ça en Bretagne beaucoup, dans le Midi aussi. Et c'est un peu ça. Si on met pas les tuteurs au bon moment, eh ben on pousse de travers. Et puis après, vous voulez retresser un arbre qui pousse de travers, vous le cassez. Vous le cassez. Aïe, aïe, aïe. Et on revient... Après ce passage où Élie essaie de reprendre ses fils, le jeune Samuel continuait à grandir. Ah, on rajoute un petit truc. Il était agréable au Seigneur. Aussi bien qu'aux hommes. Ah, ça c'est important, hein. Parce que quand j'étais jeune, il y avait, quand c'était une grande église, on avait vraiment beaucoup de gens de toutes sortes. Et il y avait des gens qui pensaient que on pouvait être agréable à Dieu et que plus on était désagréable aux hommes, mieux ça valait. Ça prouvait qu'on était un bon chrétien. Et croyez-moi, ils faisaient un effort dans ce sens-là. C'était triste à voir. Ça fait un peu rigoler quand j'y pense, mais franchement, plus les gens étaient désagréables avec eux, leurs voisins, leurs collègues de travail, plus ils étaient visiblement persécutés et ils étaient heureux. En fait, c'est parce qu'ils étaient hyper désagréables avec tout le monde. Ni sourire, ni rien, justement, et voilà. Et ils étaient contents parce que comme ça, c'était des bons chrétiens. Mais je sais pas comment ils étaient arrivés à ces conclusions-là. Je me souviens que mes parents se grattaient la tête en m'expliquant que c'était un problème. Un exemple à ne pas suivre. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on soit agréable aussi aux hommes. Non pas parce qu'on fait des compromis avec eux. Parce que souvent, ils nous méprisent quand on fait des compromis. Et c'est les premiers à nous dire, ah, je te croyais chrétien. T'as vu ce que t'as fait? T'as menti ou t'as, hein, pour un chrétien, bravo, hein. Donc, ils ont l'œil sur nous. Non. Le but, c'est d'être agréable au Seigneur, hein, et agréable aux hommes aussi, dans la mesure du possible, sans faire de compromis. Ils nous respecteront. Je me souviens quand j'étais adjoint au maire, la première chose que j'ai dit quand on est venu me chercher à la maison, le maire est venu me voir, j'ai dit, attention, faut que je vous prévienne. Je suis chrétienne. Donc, je ne pourrai pas mentir. Donc, pas question de dire, elle n'est pas dans son bureau. Pas question de dire elle peut pas ci ou elle peut pas ça si c'est pas vrai. Je me débrouillerai autrement, elle n'est pas disponible ou mais jamais comptez pas sur moi pour accepter des magouilles, accepter des choses qui sont pas justes ou des mensonges. Elle m'a dit bah, c'est pour ça que je vous veux. C'est très bien. Mais il faut prévenir les gens parce qu'ils sont pas toujours au courant, hein. Et c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'ils voient qu'on est chrétien. Et on est agréable quand même si ça peut les déranger parfois, mais on devient agréable au Seigneur aussi bien qu'aux hommes. C'est important de voir les deux. Donc, le jeune Samuel, on l'a vu grandir, hein. Il officiait pour le Seigneur auprès d'Élie le prêtre. La fois suivante, il officiait devant le Seigneur, il portait l'éphod, donc jeune sacrificateur, tout jeune, tout jeune. Il grandissait auprès du Seigneur et maintenant, il continue à grandir. Il était agréable au Seigneur aussi bien qu'aux hommes. Vous voyez la progression. Et à chaque fois entre deux, vous avez le contraste avec Élie et ses fils. Eh ben, ça se gâte. Verset 27. Un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit, ainsi parle le Seigneur. Oh là là, là, ça se gâte. Parce que le Seigneur, il va pas faire comme Élie, lui, hein. Il va pas dire, non, mon fils, ce que tu fais n'est pas bien. Il va dire, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'en Égypte, ils appartenaient à la maison de Pharaon? C'est-à-dire, vous étiez esclaves autrefois et je me suis révélé à votre famille. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour mon sacerdoce, pour qu'elle monte à mon autel, qu'elle fasse fumer de l'encens et qu'elle porte l'éphod, donc le vêtement des prêtres, devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père toutes les offrandes des Israélites, leurs offrandes consumées par le feu. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire en mon séjour? Vous voyez, dans la Bible, on voit toujours Dieu qui pose des questions. Et c'est important pour nous avec les enfants. Avant de leur sauter dessus à pieds joints, quand ils font une bêtise, je crois que ce serait sage de dire pourquoi, de demander pourquoi. Rappelez-vous, Dieu, dans le jardin d'Éden, où es-tu, Adam? Ben moi, je l'aurais mis en miettes, Adam. Et il avait tout cassé pour X générations à venir. Et la première chose que Dieu fait, il garde son calme. Où es-tu? Bon, il savait très bien où il était, mais il voulait lui faire dire. Et pour les enfants, je crois que c'est important qu'on sache poser des questions. Pourquoi t'as fait ça? Ça, on le voit régulièrement dans la Bible. La pédagogie de Dieu, c'est toujours de poser des questions. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice que j'ordonnais de faire en mon séjour? Tu honores tes fils plus que moi. Oh là là! Tu honorais un homme plus que Dieu? Tu honores tes fils plus que moi. Et on vient de voir exactement l'inverse avec Anne, qui a honoré Dieu. Anne et Elkana ont honoré Dieu plus que leur enfant. Tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Autrement dit, tu honores tes fils parce que ça t'arrange. Ah! Hein, combien on voit ça aujourd'hui dans les journaux, hein, on pourrait demander à Arnaud, il n'est pas là, mais combien de fois justement les parents laissent faire les enfants différents trafics parce que ça les arrange, ça rapporte de l'argent. Et malheureusement, Élie n'était pas insensible à ce que ça lui rapportait, visiblement, ça l'arrangeait. Eh bien, déclaration du Seigneur, le Dieu d'Israël, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant. Déclaration du Seigneur, jamais car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent deviendront peu de choses. Les jours viennent où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de la maison de ton père. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire en mon séjour, on va le voir un petit peu après, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. C'était une bénédiction d'avoir des vieillards dans sa maison. Tu auras toujours un successeur auprès de mon autel pour épuiser tes yeux et ronger ta vie, mais tous ceux qui pourraient donner de la grandeur à ta maison mourront par l'épée des hommes. Tu auras pour signe ce qui arrivera à Ophni et Phiné, tes deux fils, Aa, prophétie, ils mourront tous les deux le même jour. C'est ce qui s'est produit, on le verra après. Et je susciterai pour moi un prêtre sûr, il agira selon mon cœur et selon mon âme, je lui bâtirai une maison stable, il marchera toujours devant l'homme qui aura reçu mon onction. Quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent ou un pain rond, il dira, attache-moi je te prie à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'ai quelque chose à manger. En fait, il les a laissés faire parce que financièrement, visiblement, ça l'arrangeait, et le résultat, c'est qu'ils vont tout perdre, y compris financièrement, hein, puisqu'ils vont mendier. Il les a idolâtrés, résultat, ils vont mourir, et même les successeurs ne vont pas aller bien loin dans leur vie, ils vivront pas longtemps, etc. Et la prophétie s'est effectivement réalisée, hein, j'ai vérifié, les souverains sacrificateurs, à partir du roi Saül, Salomon, vont être, la sacrificature va passer à une autre famille, qui n'est plus la famille d'Élie. Et c'est cette famille, la famille de Tsadok, voilà, la famille de Tsadok, les générations qui vont suivre Tsadok, vont rester dans la sacrificature jusqu'à 70 après Jésus-Christ. Ils vont, même pendant la déportation, ils vont continuer à garder cette lignée, et quand ils vont rentrer, la lignée va reprendre avec Néhémie, les fils de Tsadok vont être les prêtres. Donc, la parole de Dieu a été accomplie, point. Par point. Donc, ça, c'est l'histoire qui nous le montre. Alors, il y a un autre intérêt à ces textes aussi, c'est que, après, on va évidemment lire au chapitre 3, verset 1, le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. De nouveau, après cette prophétie extrêmement dure, on va retrouver le jeune Samuel. Alors, le texte rend bien les deux situations parallèles qui se déroulaient en même temps. Hein, vous avez les petits textes sur Samuel, les gros textes sur les vilaines choses des fils d'Élie. Et on constate, si on regarde avec un petit peu de recul, on constate que le mal va augmenter. D'ailleurs, dans le texte, il prend de la place. Hein. On constate que le mal augmente, le leadership religieux est aux mains d'hommes qui ont hérité, donc pas qui ont vraiment fait ça avec amour, des hommes sans morale, qui ne connaissent pas le Seigneur, religieux, mais sans relation personnelle avec Dieu. Leurs fruits sont clairs, ils volaient Dieu. La graisse devait être brûlée, etc., devant Dieu. Ils volaient les Israélites, parce que, normalement, les Israélites donnaient aux prêtres, mais c'était un sacrifice volontaire. C'était pas quelque chose qu'on prenait de force. Hein, on le dit d'ailleurs à toutes les offrandes, hein. Donnez ce que vous avez résolu en votre cœur, sans contrainte, ni tristesse, sans tristesse, ni contrainte. Et là, ils prenaient de force, toujours mauvais, hein, de prendre de force. Ce sont des adultes, ils faisaient leur choix, et, eux, ils prenaient de force. Ils voulaient être servis avant Dieu et prendre ce qu'ils voulaient. Donc vraiment, c'était le comble. Ils ne connaissaient pas Dieu, donc je vous ai tout cité. Et ils se moquent complètement de leur rôle, de leur ministère, de Dieu, des enfants d'Israël, ça, ouais, les enfants de Dieu, et de la loi de Moïse. Ils sont au-dessus des lois. Bon, alors là, pour dire que le mal augmente en Israël, le tableau est complet, hein. On a des sacrificateurs qui sont supposés rappeler la loi de Dieu, la faire respecter, prendre soin des gens. Ils font tout le contraire. Donc, le pays est en mauvais état. Alors, c'est facile de faire un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Le pays est en mauvais état. La moralité du pays est en mauvais état. La parole de Dieu, par contre, insiste sur Samuel, qui, lui, a la tenue du sacrificateur déjà tout petit. Il commence à rentrer dans son appel. On a vu que sa famille continuait à être fidèle, qu'ils étaient bénis. Samuel continue à grandir. Et puis, on s'aperçoit après que tout le peuple est au courant de ce qui se passe, et apparemment, personne ne réagit. Ça aussi, c'est pas tout à fait normal. Quand Élie l'apprend, vous avez vu qu'il est pas très impliqué. Évidemment, ils écoutent pas. Et on a ce verset qui choque. Alors là, je voudrais juste m'attarder sur ce verset. Ils n'écoutèrent pas leur père car le Seigneur voulait les faire mourir. Alors ce genre de verset, ça choque. Comment le Seigneur, il s'arrange pour que les gens tournent mal pour pouvoir les faire mourir, autrement dit. Ah ! Alors, ça c'est un problème qu'on a souvent et on a ce problème avec Pharaon. Alors, on va le traiter tout de suite ou on peut le traiter plus tard, mais je pense qu'on va peut-être le faire tout de suite. Pensez à Pharaon et à Moïse. Tout le monde connaît cette histoire. Hein? Le bâton tourné en serpent, Pharaon s'entête, il les écoute pas. Le Nil, Pharaon s'entête. Les grenouilles, Pharaon s'entête. Les moustiques, les mouches, la peste, Pharaon s'entête. Et puis, on arrive à un moment, les ulcères, le Seigneur fit en sorte que le Pharaon s'entête. Ah! Il s'est d'abord entêté, ou il a endurci son cœur, suivant les traductions. Puis il y a un moment où c'est Dieu qui va endurcir son cœur. Ah! La graine, les sauterelles, les ténèbres, la mort, Dieu endurcit le cœur. Par contre, les premiers, sauf un, je crois, on voit que c'est lui qui s'endurcit. C'est lui qui s'entête. Alors, un, Dieu connaissait le cœur du Pharaon, il connaissait le cœur des fils d'Élie. Et j'avais bien aimé, André m'avait donné cette image il y a très longtemps. C'est si vous mettez de l'argile au soleil, et si vous mettez une plaquette de beurre à côté, il y en a un qui va s'endurcir et l'autre qui va fondre. Donc, le Seigneur, sachant de quoi en est fait, peut prévoir ce qui va se passer. Ça, c'est un fait qu'il faut qu'on en soit bien conscient. C'est-à-dire que s'il expose au soleil l'argile, il sait qu'elle va durcir. Et s'il sait que le cœur de Pharaon, le cœur des fils d'Élie était de l'argile, c'est très bien que ça allait s'endurcir. Bon. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est que devant un entêtement personnel, on l'a vu 6 fois pour Pharaon, Dieu finit par lui donner raison et l'endurcir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la Bible. C'est-à-dire que les gens font un choix, quel qu'il soit, Dieu leur parle. Et Dieu avait certainement parlé à Élie et à ses fils, ne serait-ce que par les Israélites fidèles, qui devaient essayer de refuser ces mauvaises actions, de dire « Non, non, tu prends pas, tu sais que t'as pas le droit, Moïse a dit. » Alors, on va juste lire, pour terminer, Jérémie, parce que je crois que j'ai dépassé mon temps, Jérémie 7, 3, 15, et vous allez voir une face de Dieu qui est dans l'Ancien Testament, parce que parfois on dit « Oui, mais nous, on voit ça avec nos yeux de la Nouvelle Alliance. » Jérémie 7, 3 à 15, qui concerne aussi le Temple et qui rappelle l'attitude de Silo. Donc, c'est l'attitude que les prêtres ont eue à l'époque de Silo. Donc, c'est le texte parfait pour nous faire comprendre ce qui se passe. Si on commence au verset 3 de Jérémie 7, « Ainsi parle le Seigneur des armées, tiens, on le retrouve là, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne mettez pas votre confiance dans les paroles mensongères, parlez de vérité. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. » J'aime beaucoup cette phrase. Hein, alors, on se gargarise avec des mots spirituels. Hein. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Si vous réformez vos voies et vos agissements, si vous agissez selon l'équité les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu de sang innocent, si vous ne suivez pas d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais vous mettez votre confiance dans des paroles mensongères qui ne servent à rien. Pourriez-vous donc voler, assassiner, commettre l'adultère, faire de faux serments, offrir de l'encens à Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous tenir debout devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et dire « Nous sommes délivrés !» Pour commettre toutes ces abominations, est-elle à vos yeux une caverne de bandits ? Verset que Jésus va reprendre. « Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, cela je l'ai vu moi-même !» Déclaration du Seigneur. Allez plutôt, je vous prie, vers mon lieu à Silo. Donc là, Dieu parle dans Jérémie, c'est au moment de la déportation. Le temple a été détruit, etc. Mais il rappelle le temple de Silo où était Samuel. C'est pour ça que c'est important ce texte. Allez plutôt, je vous prie, vers mon lieu à Silo, là où j'avais d'abord fait demeurer mon nom, là où a grandi Samuel. Voyez comment je l'ai traité à cause du mal qu'avait fait Israël, mon peuple. Effectivement, c'était à cause des fils d'Élie. Que le temple de Silo a été rasé, enfin le tabernacle a été rasé, et ils ont emmené l'Arche de l'Alliance, on le verra la fois prochaine. Et maintenant, puisque vous avez fait tout cela, puisque je vous ai parlé, alors c'est ça qui est important. Gardez toujours ça à l'esprit quand vous voyez Dieu a endurci le cœur de quelqu'un ou Dieu voulait la mort de quelqu'un. Gardez ce texte qui est quand même dans l'Ancien Testament. Je vous ai parlé et reparlé inlassablement et vous n'avez pas écouté. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué et en laquelle vous mettez votre confiance et le lieu que je vous ai donné à vous et vos pères, la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi comme j'ai rejeté vos frères. C'est-à-dire ce côté, Dieu parle et reparle et reparle. Sa patience est extraordinaire. Il parle. Donc faut pas croire que du jour au lendemain, il a regardé du ciel et puis il a dit « Ouh, quelle horreur, Ophni et Phiné, je veux les tuer. » Non, 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 non. Il leur a parlé. Et justement, vous voyez Samuel qui grandit parallèlement, hein, les petits versets que je vous ai indiqués. Parallèlement, l'immoralité des fils d'Élie qui grandit, ça veut dire que Dieu a pris du temps. Ce texte, l'opposition entre les deux nous permet de voir que Dieu a pris du temps. Il a parlé, il a reparlé à ses hommes. Par les Israélites, par l'un, par l'autre, leur père, et enfin le prophète. Et c'est là qu'il dit, j'ai résolu de les tuer. C'est dur, hein? C'est dur, mais ça devrait nous faire réfléchir. Parce que les fils d'Élie ont écouté personne, ni les gens, ni leur père, ni Dieu. Ils ont décidé à faire ce qu'ils voulaient. Ils ont visiblement refusé toutes les invitations à se repentir. Dieu a patienté des années. Et Romains 1:28 dit, « Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement. » Il n'y a rien de pire qui puisse nous arriver. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils étaient dans de telles ténèbres que c'était terminé. L'homme peut arriver à un stade d'endurcissement. Et c'est pour ça que Hébreux 3:7 et 4:7 dit « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Parce que si on endurcit notre cœur, à la fin, Dieu dit « Ok, tu veux t'endurcir ? Ben, je t'endurcis. C'est ça que tu veux ? Alors on y va. » Le cœur devient insensible aux reproches, aux conseils, aux rappels. Et celui qui volontairement s'enfonce dans la révolte, la moquerie de Dieu, contre Dieu, il se voit finalement confirmé par Dieu. C'est bizarre, hein? Mais c'est vrai. Dans une opposition dont il ne pourra plus sortir. Et j'ai lu ça chez un commentateur, la pire condition d'un homme, c'est que Dieu lui dise, écoutez bien, que ta volonté soit faite. C'est là qu'on est mal. Quand Dieu dit que ta volonté soit faite. Là, on est très mal. Quand nous, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, parfois on a un petit peu peur, hein, parce que ça va peut-être pas être la nôtre. Mais quand Dieu en a assez de nous corriger, et qu'il est obligé de dire, eh bien, vas-y, que ta volonté soit faite, là, on est mal. Là, on est très, très mal. Et c'est souvent là qu'on peut revenir au Seigneur, parce qu'on s'aperçoit que notre volonté, elle nous mène nulle part, et elle nous mène plutôt à la catastrophe. C'est heureusement pas toujours le cas, hein. On n'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens comme les fils d'Élie. Mais parfois, quand Dieu nous dit que ta volonté soit faite, ça peut nous faire faire des grandes boucles dans le désert. Vous vous souvenez des grandes boucles de 40 ans dans le désert? Donc, faut peut-être mieux éviter ça quand même. Moi, j'aime pas ça. Je préfère dire Seigneur, je me souviens quand j'étais jeune, je priais, puis j'avais demandé quelque chose à Dieu, puis je dis, écoute, Seigneur, surtout, si t'es pas d'accord avec moi, je pleurerai peut-être, mais m'exauce pas. Ben oui, parce que j'avais peur. Je me disais, je connais Dieu. Et je veux pas qu'il m'exauce parce que je le tanne avec ça depuis des mois. Et puis qu'après, je regrette. Donc à tout hasard, Seigneur, si c'est pas ta volonté, je pleurerai peut-être. Mais ne m'exauce pas. À côté de ça, je continue à demander. mais ne m'exauce pas si t'es pas d'accord. Hein. Surtout ne m'exauce pas. Parce que parfois, on voit des gens qui insistent pendant des années et des années pour faire leur volonté. Puis un jour, effectivement, Dieu dit, vas-y. Et puis ça fait une longue boucle dans le désert. Alors on en a vu tous, je suis sûre qu'on a tous des exemples en tête. Hein. Des longues boucles dans le désert. Alors bon, c'est pas la mort des fils d'Élie, hein. Mais les boucles dans le désert, c'est pas marrant. Si on peut éviter, autant éviter. Voilà, je pense qu'on va être obligé de terminer ici. Mais je voulais juste vous dire qu'il faut pas imaginer que Dieu sélectionne et détermine les gens qu'il choisit de punir ou d'endurcir comme ça. Hein. C'est nous qui ouvrons la porte à ça. Il est patient et il fait tout pour que les gens reviennent à lui. Mais à la fin, c'est clair. Il dit que ta volonté soit faite. On va arrêter là en se rappelant que Dieu voyait le mal qui grandissait, mais à côté de ça, il voyait Samuel qui grandissait. Ah ! Et ça, j'aurais vous laisser comme un encouragement. Si dans votre vie, dans notre vie, il y a des choses, on se dit, mais ça devient terrible, ça devient trop dur, c'est épouvantable. Qui vous dit qu'il n'y a pas un petit Samuel qui pousse quelque part? C'est-à-dire, un événement, une circonstance, quelque chose que Dieu prépare pour régler le problème qui vous pèse. Un moyen d'en sortir? Une bénédiction? Que sais-je, ça dépend de vos circonstances. Mais vous êtes là en disant, oh ça me pèse, c'est pas possible. C'est de pire en pire, les années passent, c'est de pire en pire. Et qui vous dit que Dieu n'est pas en train de faire grandir un petit Samuel et que, parallèlement à votre problème, de l'autre côté, vous le voyez pas, il est à l'ombre du temple, là, il est tout sage, tout mignon, il fait tout ce qu'il peut, et il grandit. Le mal grandit, vos difficultés quelquefois grandissent, mais parfois on se dit, si j'avais su que Dieu préparait ça, comme ça m'aurait soulagé. Et cette image, qu'est-ce que je voudrais vous laisser ce matin? Vous voyez, la Bible fait exprès le parallèle entre le petit Samuel qui grandit et le mal qui, il n'arrive pas à se corriger, le pauvre Élie, il s'en sort pas, il n'y a pas d'espoir pour le pays. Mais Dieu est en train de préparer l'homme de Dieu, le prophète, le juge, le sacrificateur, qui va oindre deux rois, les plus grands rois d'Israël à ce jour. Quand même, hein? Qui va ramener le peuple vers Dieu, qui va être agréable au peuple, etc. La situation est horrible, mais Dieu est déjà en train de préparer la solution. Évidemment, pendant toutes ces années où le petit chouchou, là, il grandissait, ça avait l'air de rien, hein? Petit bonhomme qui faisait le ménage, qui ouvrait les portes, qui était là, Élie, j'ai soif, il courait lui porter à boire, fais-moi mon repas, mais il courait. Et c'était l'homme qui allait transformer Israël. Et dans nos vies, je voudrais qu'on garde ça avec les problèmes qu'on a, que ce soit de maladie, de soucis, de travail, etc. Dieu voit, il voit nos problèmes et il est en train de préparer la solution. Le petit Samuel, il pousse. Donc, gardons ça sur le cœur et un jour, on va se dire, waouh, si j'avais su que Dieu avait préparé ça depuis toutes ces années, le moyen d'en sortir et que ce soit vraiment un encouragement pour nous cette semaine.